Vraiment, du Seigneur. Nous avons donc la scène aujourd'hui et la prédication de ce matin n'est pas textuelle, mais plutôt thématique. Et nous allons passer un moment ensemble devant la face de Dieu à considérer l'agneau de Dieu, le centre de toute la révélation, de la Genèse, l'Apocalypse. Lorsque nous regardons le message que Dieu veut nous donner, nous voyons que là, le cœur et le centre, c'est l'agneau immolé à notre place. Pour que vous ne pensiez pas que cette réalité vous concerne seulement au niveau de votre conversion, rappelez-vous que tous les jours de notre vie chrétienne, nous dépendons du sang de l'agneau. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 et verset 7 ces paroles. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Le mot est dans le présent continuel en grec. Le sang de Jésus-Christ est en train de nous purifier constamment de tout péché. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, il n'y a une chose entre vous et la condamnation et la colère de Dieu. Et ça, c'est l'agneau de Dieu. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Moïse? Moïse qui reçoit l'appel d'être le grand libérateur du peuple d'Israël. Il a déjà fait 2 miracles parce que Dieu lui a montré qu'il lui avait donné maintenant le pouvoir de changer son bâton en serpent et en serpent, de serpent en bâton. Et sa main qui devient lépreux et qui se guérit, il a déjà fait, il a vu qu'il a une puissance miraculeuse et il s'en va vers l'Égypte. Et quelle est la première chose qui lui arrive? Exode 4 nous dit que Dieu essaie de le tuer. Voilà. Il a failli mourir entre Madian et Égypte. Parce que son fils n'était pas circoncis. Le sang de la circoncision représente le sang de l'agneau. C'est cette même vérité. C'est le fait que nous ne pouvons pas tenir devant Dieu sauf par le sang coulé d'une mort. Et donc, il est délivré seulement quand sa femme, rapidement, prend le fils et le circoncis, elle est fâchée, elle est dit, tu es pour moi un mari de sang. Mais Moïse apprend la leçon. Oui, tu es prophète. Oui, tu as des dons miraculeux. Mais entre toi et la mort sous la colère de Dieu, il n'y a qu'une chose. Et c'est ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. Nous allons donc partir de la Genèse et comprendre pourquoi l'agneau de Dieu doit être au centre de notre vie de tous les jours, notre foi s'accroche à lui. Genèse 4, et si vous pouvez, venez avec moi dans cette vue panoramique de la Bible et de cette doctrine de l'agneau. Caïn et Abel. Nous lisons dans le verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta les premiers nés de son petit bétail avec leur graisse. Le petit bétail. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande de plantes. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La première chose que Dieu nous révèle au début de la Genèse, c'est quand même les deux premiers enfants d'Adam et Ève, c'est la nécessité de l'agneau. La nécessité de l'agneau. Car dans ce récit, Dieu dévoile et montre aux hommes d'une manière éclatante que sans l'agneau immolé, il n'y a pas d'approche à moi. Il n'y a pas d'acceptabilité. Vous n'êtes pas acceptable à Dieu, ni par votre piété, ni parce que vous aimez Jésus. Pas du tout. Vous êtes acceptable à Dieu seulement par lui, par l'agneau de Dieu qui meurt à votre place. Nous voyons que c'est par la foi qu'Abel a offert cet agneau, parce qu'il croyait que Dieu lui disait la nécessité absolue de l'agneau. Est-ce que vous voulez être sauvé? Est-ce que vous voulez être acceptable envers Dieu? Eh bien, votre foi doit être dans l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Il est la seule nécessité devant Dieu. Deuxièmement, nous arrivons au chapitre 22 de la Genèse, et là, nous avons le récit que vous connaissez bien de l'offrande d'Isaac. Abraham reçoit l'ordre de l'Éternel d'offrir son propre fils. Et il se lève de bon matin, le verset 3, sella son âne, prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Quel jour angoissé pour lui, allant selon l'ordre de Dieu pour aller exécuter son fils, son unique, celui qu'il aime. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons? Abraham a la foi que Dieu va lui redonner son fils. Et nous allons voir comment il le rend. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit. Et lorsque nous avons le discours dans un récit biblique, nous faisons attention parce que là, nous arrivons au centre du récit, lorsqu'on commence à parler. Et Isaac a une question importante. Il dit, mon père, et Abraham répondit, me voici mon fils. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? J'ai besoin d'un agneau. Je ne peux pas être acceptable devant Dieu, sauf par cet agneau. Mais où? Qui me fournira un tel agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau. Ça, c'est la foi d'Abraham. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué à Abraham, il construisit l'autel et disposa le bois et ligota à son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici, arrêté en plein coup. Et l'ange lui dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais pas, ne lui fais rien, car je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Maintenant, quelle est la chose centrale Quelle est la chose qui frappe? Quelle est la chose pour Abraham qui est le plus important ce jour-là? Le verset suivant, 13. Pardon, 14. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Yireh, c'est-à-dire Dieu pourvoir. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La deuxième chose que l'Écriture nous révèle au sujet de l'agneau, c'est que c'est Dieu qui pourvoit l'agneau qui nous rend acceptables. Le salut, chers amis, vient de l'Éternel et aucunement de nous. C'est formidable, n'est-ce pas? Je veux dire que ce nom de cet endroit est un nom évangélique. Il met l'évangile sur cet endroit. Dieu pourvoit l'agneau. Et nous disons gloire à toi. Tout mon évangile est là-dedans. Au temps fixé, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Troisièmement, nous arrivons à Exode chapitre 12 et la Pâque, la délivrance d'Israël. Et au verset 2, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ce qui va se passer maintenant est tellement central que vous allez changer vos calendriers carrément. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le dixième de ce mois, on prendra un agneau. Pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour du mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, etc. Et lorsque vous arrivez au verset 12, nous lisons cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. En ce moment de l'histoire, Dieu révèle plus clairement, pas comme si ça n'avait jamais été dit, mais c'est en ce moment que la révélation met l'accent sur ce point, non pas la nécessité de l'agneau, non pas la provision de l'agneau, mais l'immolation de l'agneau. Et Dieu nous montre que cet agneau, cette nuit-là, ne peut sauver aucune maison tant qu'il reste vivant. C'est pas l'agneau. C'est l'agneau immolé qui peut vous sauver. Vous savez que vous avez la foi en Jésus, mais Jésus ne peut pas vous sauver par sa belle vie, par ses beaux enseignements, par ses grands miracles. Si Jésus ne vient pas à la croix du calvaire et ne meurt pas à votre place sous la colère de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est l'exécution de Jésus-Christ à la croix. C'est Jésus qui s'offre à la mort pour vous. C'est ça qui vous sauve. Verset 13, Dieu dit, « Quand je verrai le sang, signe d'une mort par exécution, une mort violente. Nous arrivons au livre de Lévitique, chapitre 1. Et c'est un livre biblique qui est rempli de l'agneau. 20 fois dans ce livre de Lévitique, Dieu met son doigt sur un autre accent. Et c'est la pureté parfaite de l'agneau. 20 fois dans le livre, Lévitique nous dit que l'agneau doit être sans défaut. Nous lisons dans le chapitre 1 et au verset 10 ceci. Si son oblation est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Et lorsque nous arrivons au verset, au chapitre 22, juste pour vous montrer que ça traverse tout le livre, chapitre 22 et verset 20, vous n'offrirez aucune victime qui ait une malformation, car elle ne serait pas agréée pour vous. Si un homme offre à l'Éternel de gros ou de menus bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit pour comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut pour être agréée. Il n'y aura en elle aucune malformation. Vous n'en offrirez pas qu'il soit aveugle, estropié ou mutilé, qu'il ait une verrue, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop court, mais il ne sera pas agréé à la suite d'un vœu. Vous savez qu'un homme qui a une dette infinie envers l'État, lorsqu'il paye quoi que ce soit, il ne peut pas payer pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'il rend de l'argent à l'État, cet argent est forcément compté comme étant pour sa dette à lui. Et compté comme un paiement insuffisant pour sa dette à lui. Il ne peut pas payer pour d'autres parce qu'il a le problème lui-même. Il n'y a qu'une personne qui n'a aucune dette auprès de l'État, qui en rendant de l'argent, peut être compté comme donnant cet argent pour l'autre. N'est-ce pas? Et si Jésus va payer pour vos péchés, votre corruption, votre culpabilité, il doit en avoir aucune devant la face de Dieu. Je vois de ma fenêtre un jardin plein de mauvaises herbes, désagréables. Et au milieu de ce grand jardin et toutes ces mauvaises herbes mal formées, je vois un lys des champs tout blanc, parfaitement formé, tout beau, sans aucun défaut, qui reflète la lumière du soleil. Toute l'humanité est corrompue et un seul homme dans l'histoire parfaitement formé. De son enfance à son adolescence, à son âge adulte, parfaitement agréable, tellement bon et sain. Et c'est lui qui est coupé à la racine en tant qu'agneau de Dieu. Percé par clou, percé par l'épée, saignant de la tête, est un agneau innocent. Et le décalage entre ce qu'il est et ce qu'il reçoit est infini. Infini. Anormal. Et c'est ce décalage qui vous sauve. L'agneau complètement pur. Nous arrivons ainsi à Ésaïe chapitre 53. Et peut-être pour le juif, en arrivant au jour où Ésaïe prononce ses paroles et les inscrit sur papyrus, après, on reçoit un choc. Parce que en ce moment de la révélation divine, Dieu dévoile la personnalité de l'agneau. Ce n'est pas un animal. L'agneau de Dieu est un homme. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, verset 2, comme une racine qui sort d'une terre et assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Mais de qui parles-tu, Ésaïe? De qui parles-tu, Seigneur, par Ésaïe? Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais qui est-il? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il était maltraité, s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau. Ah, semblable à l'agneau dont on a toujours entendu parler, qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ici, enfin, nous apprenons la personnalité humaine de l'agneau, et comme l'agneau est un homme, sa mort n'est pas la mort d'une bête inconsciente de ce qui lui arrive. Mais dans ce passage, nous avons l'accent sur la nature volontaire, délibérée et active de la mort de l'agneau. Nous pouvons nous fâcher un peu avec les théologiens parfois. Par exemple, quand ils appellent la mort de Jésus son obéissance passive. Dans la théologie, on a appelé la vie juste de Jésus, son obéissance active à la loi de Dieu, il a toujours obéi à Dieu. Mais quand il arrive à la croix, les théologiens appellent cette obéissance son obéissance passive. Mais en réalité, Jésus n'a jamais été autant actif dans son obéissance que sur la croix. Regardez bien comment... dans le verset 12, il est décrit en Ésaïe 53. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'est-à-dire, chaque instant, Jésus n'est pas en train de subir quelque chose passivement. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut quitter cette croix miraculeusement. S'il reste là, ce n'est pas une obéissance active. Il se donne à la mort de la croix. Il se donne à cette expérience de la colère de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus décrit ça par la métaphore de la coupe qu'il boit. Vous savez que quand vous prenez une douche, vous subissez l'eau. N'est-ce pas? Ça vient, vous subissez. Mais quand vous buvez quelque chose, ce n'est pas passif. C'est actif. C'est vous qui vous devez décider, est-ce que je bois tout ou pas? Et la Bible nous dit que Jésus activement boit la colère de Dieu jusqu'à la lie. C'est parce que c'est l'agneau humain qui agit humainement à la place l'homme pour des hommes, délibérément, volontairement, se chargeant de nos péchés. Merveilleux, n'est-ce pas? C'est glorieux. La nécessité de l'agneau, la provision de l'agneau, l'immolation de l'agneau, la pureté de l'agneau, la personnalité de l'agneau et l'identité de l'agneau. Jean chapitre 1 et verset 29. Jean-Baptiste commence son ministère. Il sait déjà que c'est lui qui doit avoir pour tâche la plus bénie des tâches, le plus privilégié. Et Jésus va dire, de tous les hommes nés d'une femme, il n'y en a de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Il a un ministère très court. Il ne fait jamais aucun miracle, nous dit le texte de l'évangile de Jean. Pourquoi est-il si grand? Chapitre 1 et verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit devant toute la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et enfin, l'énigme de tous les âges est résolue. Voici la provision de l'agneau. Voici l'homme de douleur. Voici celui qui se charge de nos péchés. C'est lui-même et pas un autre. Et votre foi doit être en lui-même et pas un autre. Il n'y a pas d'autre agneau de Dieu. Il a été identifié. Et il ne suffit pas de croire vaguement qu'il doit y avoir une solution. Dieu a dévoilé, Dieu a envoyé, Dieu a pointé le doigt par son prophète et il a dit, voici, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il ôte vos péchés comme l'agneau. On peut penser à cet eunuque éthiopien, n'est-ce pas, qui, après la Pentecôte, se dirige vers Éthiopie, il rentre de Jérusalem, il est en train de lire le rouleau d'Ésaïe, ce chapitre 53 qui parle de la personnalité humaine de l'agneau. Et il dit à Philippe qui rejoint son char, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. De Jésus. Et Philippe lui dit à un moment donné, quand il demande le baptême, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Qui est Jésus pour toi? Est-il ce Fils de Dieu et cet agneau? Voici l'agneau de Dieu. Ensuite, nous arrivons au passage qui est peut-être le plus intéressant. C'est 1 Pierre, chapitre 1, que nous avons lu au début de ce culte. Il est intéressant parce que il mentionne tous les points que je viens d'énumérer. Et il les mentionne explicitement. la nécessité, la provision, l'immolation, la pureté, la personnalité et l'identité de l'agneau. Je n'ai pas inventé ces points. C'est Pierre qui nous dirige ainsi. Et donc, nous lisons dans le chapitre 1 et les versets 18 à 21. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. La nécessité, ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés. Vous pouvez prendre les choses les plus valables du monde. Ça ne fait rien. Vous avez besoin de l'agneau. Ce n'est pas par autre chose. L'agneau est nécessaire. La provision, il a été prédestiné avant la fondation du monde par Dieu et manifesté, donné, pourvu à la fin des temps à cause de vous. Dieu l'a pourvu. L'immolation, par le sang précieux, pas simplement par l'agneau, mais par son sang coulé. Il doit être un agneau immolé. Et la pureté, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et sa personnalité et son identité, celui du Christ. Le sang précieux de Christ. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce passage? Qu'est-ce que Dieu ajoute à ces points? C'est la résurrection de l'agneau. En parlant de l'agneau, il dit « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Si Jésus se met à notre place, dès qu'il se met à notre place, écoutez bien, tout ce qui devait nous arriver, tout ce qui aurait dû nous arriver, lui arrive. C'est ça, être notre représentant. Mais une fois qu'il lui arrive ce qui aurait dû nous arriver, notre peine, ce qui va arriver à Jésus après, nous arrivera infailliblement. D'abord, il lui arrive ce qu'il nous devait arriver, et après, il nous arrivera ce qui lui arrivera. Donc, quand il subit ce que nous méritons, s'il reste dans le tombeau, nous aussi, il nous arrivera ce qui lui arrive. Pourquoi ? Parce que s'il reste dans le tombeau, ça veut dire qu'il n'a pas pu se relever du poids de nos péchés. Et s'il n'a pas pu nous sauver, se sauver en tant que notre représentant, il ne peut pas nous sauver. Vous voyez pourquoi je dis, ce qui lui arrive, tous mes espoirs sont fixés sur qu'est-ce qui va arriver à lui, à Jésus. Parce qu'il est mon représentant en mourant, mais ça ne s'arrête pas là. Il est toujours mon représentant. Et je ne peux avoir que ce qu'il a. Il est mort à cause de mes péchés, mais il est juste, il est ressuscité à cause de ma justification. Pourquoi est-ce que Dieu l'a ressuscité? Parce qu'il a tout payé. Il a tout payé. Et ce qui lui arrive dans sa résurrection, c'est qu'il devient le premier homme justifié. Mais justifié pour nous. Nous avons donc un agneau ressuscité et nous glorifions Dieu que dans cela nous avons le gage de ce que nous le serons. Tout simplement, quand je vois cet homme ressuscité au-dessus des anges, au-dessus de tout nom, je vois la valeur du sang de l'agneau qui est versé pour moi et pour vous. Parce que c'est la valeur de sa mort qui lui donne sa place après. Philippiens chapitre 2, versets 8 et suivants. Dernièrement, nous arrivons à Apocalypse chapitre 4. Pardon, chapitre 5. Verset 4, je vais peut-être remonter un peu verset 2. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau. Voilà une nouvelle chose et c'est au sujet de l'agneau. Pas une révélation de Jésus en tant que simplement Messie ou roi ou Seigneur, mais en tant qu'agneau. C'est ça l'important. C'est en tant qu'agneau qu'il est là, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu vivant envoyés par toutes les terres. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Ça provient de la valeur de sa mort, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des âmes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront avec toi, parce que tu règnes en tant qu'agneau, ils régneront sur la terre. Avec le Père, Jésus-Christ règne sur l'univers. Mais il règne comme l'agneau. Et jusqu'au chapitre 21 d'Apocalypse, nous voyons celui qui était sur le trône et l'agneau. Pour tout jamais, chers amis, nous aurons au paradis, dans la nouvelle terre, le roi de l'univers avec les plaies des clous dans ses mains et dans ses pieds. Je veux dire par là que il règne, mais il règne en tant qu'agneau. S'il n'avait pas été agneau, sur quoi est-ce qu'il aurait régné? Nous serions tous à l'enfer. N'est-ce pas? Et s'il y a des myriades et des myriades des hommes sauvés, c'est parce que le Fils de Dieu est devenu agneau. Et il règne sur ce royaume d'âmes rachetées par vertu de son immolation, de son obéissance, de sa passion, de sa souffrance. Ça veut dire tout simplement que toutes nos bénédictions dans cette vie éternelle nous viennent comme des bénédictions du calvaire. Nous sommes bénis, mais non pas comme des anges qui n'ont jamais été déchus. Notre bénédiction est toujours la bénédiction de pécheurs rachetés par le sang de l'agneau. Est-ce que tout cela est au centre de notre foi? Est-ce que nous réalisons combien l'agneau de Dieu immolé est tout pour notre salut? Quand vous priez, est-ce qu'il vous arrive de prier sans que vous disiez ou vous pensiez en moi, j'ai aucun droit de m'approcher de Dieu? Aucun. Il n'y a que le sang de l'agneau qui me permet de m'adresser à Dieu. Ou bien est-ce que nous venons souvent à Dieu comme des hommes bons, des bons chrétiens, sur la base que ça s'est mieux passé aujourd'hui pour moi, donc j'ai le courage de prier. Vous avez le courage de prier comme un païen, parce que votre courage est bâti sur vous-même et votre bonté. Mais la prière chrétienne est un privilège immérité, gagné par médiation, gagné par un autre et gagné au prix de son sang. N'est-ce pas? Nous pouvons donc voir que souvent l'agneau de Dieu, nous pouvons en parler, nous pouvons le voir dans les Écritures, mais dans le cœur, nous avons encore bien besoin de sentir et de comprendre à quel point il est tout, du début à la fin de l'Écriture, du début à la fin de notre vie chrétienne. Tout vient de Christ crucifié. Nous allons chanter un chant de confession et de reconnaissance au Seigneur dans le recueil le numéro 33.